Merci d'accueillir Yossi Aviram et Thomas Marchand. Alors, c'est celui-là qui est plus fort que je vais vous donner. Alors, vous choisissez vos tabourets. Ils sont très différents. Voilà. Je vous laisse ce micro. Voilà.
Merci.
Je vous rappelle, vous m'entendez un petit peu ou pas ? Ouais, ça va. Juste, je vous rappelle les petites règles du jeu. Vous levez la main, moi je viens vers vous, je vous passe le micro pour qu'on s'entende tous bien. Et puis, comme d'habitude, nos échanges sont enregistrés et ensuite on peut les écouter dans les 24, 48 heures ou 72 heures sur le site des 400 coups pour celles et ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Est-ce qu'il y en a qui veulent démarrer ? Poser une première question ? Non ? Alors, vous voulez que ce soit moi qui démarre, c'est ça que vous m'avez lancé comme message ? J'attends. Non ? Ok. Eh bien, Yossi, ce film, c'est ton deuxième film. On a attendu 10 ans. C'était 2014 avec La Dune, le tout premier film. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette... alors, il y a peut-être eu le fameux Covid, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a eu 10 ans entre le premier et le deuxième film, le deuxième long-métrage ?
Et l'argent. Okay. Non, on a commencé à écrire en 2014, c'est vrai. Et en 2007, en fait, 2017, on a eu déjà l'argent français du CNC. On a eu beaucoup de difficultés de trouver de l'argent en Israël. Et c'était à peu près. Et une fois qu'on était à peu près prêt, il y avait le Covid. Et voilà, j'ai dit à mes amis, d'une certaine manière, ma vie était pendant 10 ans à l'ombre de ces projets. C'est un peu vrai, mais c'est plutôt l'argent, finalement. Et on a fait finalement les films avec la moitié de l'argent dont on a espéré. Ça veut dire il fallait soit tourner le film, soit rembourser l'argent au CNC, alors on a tourné le film. Vous avez l'intérêt de poser beaucoup de questions à Thomas, parce qu'il parle beaucoup mieux de moi pour le français.
Qu'est-ce qui vous a inspiré d'écrire ce film ou de réaliser ce film ? Pourquoi ce choix ?
Ça a commencé avec les déserts, et parce que dans ma jeunesse, j'étais un guide d'un désert en Israël. J'habitais dans une toute petite ville d'un désert. Et il y avait une petite cabane de bois du gardien du parc, qui était mon cabane de rêve. Et en même temps, j'étais un vrai cinéphile à cet âge-là. Alors, j'écris un scénario à 19 ans sur les gardiens du parc qui kidnappent une comédienne française qui vient au Festival de cinéma de Jérusalem. C'était un scénario de 3 heures, très romantique, très... Et voilà, évidemment, je l'ai laissé tomber, mais après avoir fait mon premier film, je l'ai raconté presque comme une blague à la productrice Yael Fogiel avec laquelle j'ai travaillé. Elle m'a dit, il faut prendre cette histoire, et pas forcément une comédienne française, mais voilà, et on a proposé à Valéria l'histoire. C'était Valéria qui a amené ce contexte au procès, et on a commencé à développer l'histoire. Mais pour moi, c'était plutôt le désert. J'ai toujours eu vraiment envie de filmer le désert. Et c'est un peu... Les films, c'est l'excuse pour faire ça.
Et tu parlais de Valéria. Comment ça s'est passé, la rencontre avec elle ? Vous connaissiez depuis longtemps avant ? Quel a été le choix pour le casting, peut-être même l'écriture du scénario ?
J'ai vu Valéria... J'ai vu les premiers films de Valéria en 2003. Et il est plus facile pour un chameau, et c'était vraiment une sorte de coup de foudre, parce que je ne savais pas du tout, et ça veut dire je connais pas du tout ses films ni comme comédienne ni comme réalisatrice, et je l'ai suivie pendant des années, j'ai regardé tous ses films, et quand j'ai fait La Dune, la directrice casting qui a travaillé avec moi, elle a travaillé avec Valérie en même temps sur son film Château d'Italie. Elle s'appelle Marion, je lui dis, mais on propose le rôle à Valérie, même si ce n'était pas du tout bien pour le film, mais j'ai voulu la proposer le rôle. Elle a lu le scénario, elle a beaucoup aimé le scénario, on s'est vu, mais finalement elle n'a pas fait, parce qu'elle devait tourner son film à elle. Mais on a pris un café, on est devenus un peu amis, Et je lui proposais d'écrire ensemble. C'était, pour elle, c'était nouveau parce qu'elle n'a jamais écrit pour quelqu'un d'autre. Et voilà, mais c'est plutôt c'est devenu une amitié. Et après, c'est, voilà.
Est-ce que vous êtes un fan de Primo Levi pour l'avoir mis dans votre histoire, enfin dans votre film?
Est-ce que je suis
Fan de Primo Levi, vous aimez beaucoup ses
histoires? Oui, fan, je ne sais pas si c'est le mot, mais j'ai lu beaucoup. En fait, j'ai lu d'abord, il a des livres qui ne parlent pas directement sur les camps. Il y a comment ça s'appelle en français? Quelque chose de périodique. Parce qu'il était chimiste. Et il a écrit un livre qui s'appelle les tableaux. Les classements périodiques, chaque histoire, chaque nouvelle ou chaque histoire, c'est un autre élément de ce tableau. Et ça, j'ai adoré déjà. Et son plus grand livre, disons, entre guillemets, Est-ce que c'est un homme, j'ai lu. C'était, pour moi, c'était un peu comme elle dit là. Pour moi, c'est ça qui m'a vraiment raconté les camps. Et après, j'étais très intrigué aussi par son suicide, par son histoire. Parce que c'était une sorte de... On ne savait pas au début s'il s'est suicidé, etc. En plus, il a parlé pendant toute sa vie contre la suicide. Et voilà. Mais si t'as pas lu, si vous n'avez pas lu, il faut le faire. Je vais me permettre de dire parce que vous êtes jeune, c'est tout.
Bonsoir, merci pour ce film. Qui n'était pas facile à... De par ces deux volets, en fait, et le fait d'aimer le désert, c'était fabuleux avec cette touche de couleur qui. Et puis toutes ces sinuosités et puis ces changements de couleur. J'avais une question, moi, c'était par rapport au montage. On voit Valeria qui change après la nuit à se mettre à fumer, etc., qui change de caractère, qui se transforme complètement. Comment au montage, quel artifice vous avez eu, enfin, est-ce que c'est des plans, des positions de la caméra qui étaient différents? À chaque fois, on a l'impression qu'elle est un peu perdue et qu'elle ne se regarde pas. Quel était au niveau du montage, les éléments qui ont facilité pour nous cette perception de transformation, en fait?
Je ne suis pas sûr que j'ai compris, mais...
Il a compris. C'est en fait, pour nous accompagner et nous faciliter et apprécier cette transformation qui est vraiment... énorme, je trouve, jusqu'à ce qu'ils viennent à s'embrasser, en fait, alors qu'avant, Valéria, je la connaissais qu'à bout de souffle quand elle parle, avec un tout petit filet de voix. Et là, après, elle est complètement métamorphosée dans la puissance. Et donc ça, je pense qu'au niveau du montage, vous avez dû travailler là-dessus, en fait.
Ce qui est sûr, c'est que le film, il était en deux parties, et ça, c'était un vrai truc de montage, et c'était un vrai changement de montage entre la première et la deuxième partie. Et après, Valéria, c'est une actrice qui propose beaucoup et qui propose c'est pour ça qu'elle est géniale et qui propose d'une prise à l'autre, je pars sous le contrôle de Yossi, mais dans des directions très différentes. Et effectivement, alors l'idée c'est parfois de la baisser ou de la. Effectivement, je pense que dans la première partie, on a cherché à la calmer, plutôt prendre ce qui était le plus sobre d'elle, le plus comme ça assuré. Et dans la deuxième partie, on lui a laissé beaucoup plus de champ libre, je pense, jusqu'à la fin, où je pense qu'elle devient dans un truc beaucoup plus doux quand elle a compris, je ne sais pas ce qu'elle a compris, mais en tout cas, qu'elle a rencontré le Ori. Et enfin, qu'elle a vraiment vu quelque chose de lui, quoi. Donc ouais, ça, c'était un truc au montage, mais ça, c'était parce qu'une actrice comme Valéria, elle permet toute cette palette-là. Et après, nous... Tout notre travail au montage, ça a été ça, quoi, de choisir quelle touche on prenait. Et comme on avait tout ce long parcours de nuit qui relie les deux parties et l'arrivée en plan très large, et tout à coup le dialogue s'arrête et tout ça, ça je pense que c'est ce qui nous permettait de faire le lien entre les deux moments. Et dans la voiture, on avait beaucoup de propositions, des trucs plus ou moins loufoques sur comment elle pourrait réagir à cet enlèvement. Après, voilà, pour nous, ça a été un travail de comprendre comment on passait d'une partie à l'autre, c'est vrai. Voilà.
Non. En plus, c'est vraiment, on en parlait avant, Je pense que les gens, même les acteurs, ne sont pas très conscients à tel point c'est le montage qui crée leur jeu. Parce qu'on fait tellement de petits choix, des prises, des regards, qui parle en off, ou ça veut dire est-ce qu'on regarde lui quand il parle, ou est-ce qu'on regarde moi quand il parle. Et c'est vrai que ce qui parfois sur le tournage, on est étonné parce qu'elle va dans tous les sens. Mais après le montage, on comprend qu'en fait, elle laisse ouvert les possibilités. Et ça, voilà. J'espère qu'on a répondu à la question, parce que moi, je n'ai pas tout à fait compris la question.
Merci beaucoup pour ce film. Je l'ai trouvé vraiment pertinent parce qu'au début, j'avais un peu du mal à faire le lien entre le désert et le lien avec la mémoire. Et je pense que c'est un film qui est riche en analyse et en complexité. Et il m'a vraiment plu, donc merci beaucoup pour votre travail. Ma question, merci. C'était quel est le message que vous souhaitez faire passer à travers ce film ? Parce que je trouve qu'il y a à la fois le message de la solitude de l'existence et à la fois avec cette petite touche avec Primo Levi sur le devoir de mémoire. Donc j'avais envie de savoir le message que vous essayez de transmettre à travers cette œuvre.
On va revenir.
Ça prend beaucoup de temps de faire un film, il faut se réveiller très tôt, alors il faut plusieurs messages, sinon c'est pas la peine. Non, je plaisante, mais je peux pas dire les messages du film. Pour moi, les films, si je dois résumer, disons, les films, ils parlent des gens qui s'en servent de l'imaginaire pour se libérer d'une sorte de poids d'existence, comme vous dites, qui dans les films, il est lié à l'histoire, au passé. Mais chacun de nous peut sentir cette poids de, même si ses parents sont, on n'est pas obligé d'être des enfants des survivants. Et il se libère d'une sorte de culpabilité. Et ces gens qui sont, disons, qui n'osent pas vivre jusqu'au bout, et se servent de la fiction, de l'imaginaire. Et là, il y a une sorte de libération, peut-être. Mais est-ce que c'est un message ? Je ne sais pas. C'est pas un... Après, évidemment que être humaniste, c'est peut-être le message de première partie, mais ça, c'est pas. Je sais pas. Mais voilà, c'est comme ça que j'aurais résumé peut-être le film. Mais là, j'ai compris la question, mais je ne suis pas sûr que j'ai bien répondu. Non, c'est bien comme j'ai défini.
Si, je trouve ça bien.
Bon, la réponse est validée.
Voilà. D'accord.
C'est bon. Justement, tu parles aussi de fiction, et dans les personnages, par moments, ils sont un peu perdus entre fiction et réalité. Et quel a été le moment où tu as fait le choix du cinéma d'animation pour aller vers ces moments, justement, où on est entre réalité et fiction ? Est-ce que ça apporte quelque chose d'autre encore au film ?
C'était pas longtemps avant le tournage, ça veut dire dans le scénario il n'y avait pas l'animation. Je savais que je pensais d'utiliser de vieux extraits des films de Valéria pour faire vivre un peu le passé. C'était une idée qu'on a même utilisé quelques plans, mais d'abord il fallait vraiment juste faire vivre cette histoire à Tourin. Et après, ce que j'aime beaucoup, ce que je trouve réussi, c'est Sariel, l'animateur, qui a ajouté cette brume. Et ça veut dire, on savait que ça ne doit pas être un dessin animé, mais une chose un peu rêvée, un peu qui donne peut-être l'impression de l'imaginer. Ça veut dire ce qu'on voit quand on lit un livre. Et on a commencé avec beaucoup d'animation, et petit à petit, on a diminué les... Pas petit à petit, mais on a diminué beaucoup les... Il était un peu vexé, l'animateur, parce qu'il a beaucoup travaillé. Finalement, on a utilisé très peu. Mais j'espère que ça marche. Est-ce que ça rend les choses plus réelles ou plus imaginaires ? Moi, je ne sais pas.
Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir? J'arrive.
Oui, bonsoir. J'ai beaucoup aimé le film, mais je me pose la question du travail d'écriture entre vous et Valeria Bruni-Tedeschi, qui est donc déjà la co-écriture, c'est pas forcément évident, avec quelqu'un qui est l'actrice principale, enfin au moins l'un des deux acteurs principaux du film, qui est en même temps metteur en scène elle-même. Donc ça fait un certain nombre de paramètres avec lesquels, je suppose, il faut jouer beaucoup pendant la période de l'écriture. Et au final, en regardant le film, je voyais d'une part le procès Valeria et puis l'homme du désert, vous. Alors, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je ne sais pas si c'était d'une part une réalité pour vous, une volonté. Enfin, comment ça s'est passé et est-ce que vous pouvez dévoiler quelques trucs sur l'écriture? Comment ça s'est passé, l'écriture avec Valeria Bruni-Tedeschi, qui est quand même un feu follet, un peu, parfois.
Un peu?
Un feu follet.
Valeria?
Oui.
Tu veux dire une folle?
Non. Non.
Non, mais non, je vais commencer juste par peut-être par la fin. Je suis pas sûr que c'est. Oui, moi j'ai amené le désert, mais je pense pas que j'aurais fait cette division. Après, travailler ensemble. Alors, on a développé l'histoire ensemble pendant quelques mois où je suis venu chaque fois à Paris une semaine. On a beaucoup discuté. Ça veut dire. Dans cet stage, dans cette étape, ce n'est pas vraiment la co-écriture, mais on discute beaucoup. Pourquoi elle tombe amoureuse de lui? Qu'est-ce qu'on fait là? Et après, on est arrivé à ce qu'on appelle un traitement, ça veut dire qu'on a eu l'histoire à peu près. Et là, je suis parti écrire le scénario toute seule. Parce que je pense que par rapport à ta question, à votre question, et ce n'est pas une question d'ego, mais je savais que pour réaliser ce film, pour qu'il m'appartienne, je dois l'écrire toute seule. Parce que Valeria, elle est énorme, elle est super douée, elle est très dominante, elle est très forte. Et en plus, elle a fait, je sais pas, 90 films. Ça veut dire. Donc j'avais besoin de cet espace, disons, à moi, parce que quand même on est différent pour les rythmes, mais elle était là, ça veut dire elle a lu les versions, on a discuté, après, avant le tournage, on a retravaillé un peu le dialogue, et le travail d'écriture ensemble, voilà, c'est une chose que je l'ai fait, disons, 3-4 fois dans ma vie pour des autres, etc. C'est pas une chose. C'est un peu des relations pas comme un couple, mais c'est difficile à expliquer. On jette des idées, on dit ça c'est mieux, ça c'est pas mieux. Alan, peut-être je pense que la chose la plus importante, disons, c'est de ne pas avoir honte de proposer des idées qui sont un peu nulles. Parce que parfois c'est la conversation qui rend les choses. Après, Valeria, voilà, elle est. Elle est compliquée. Ça veut dire que c'est très riche. Je ne vais pas essayer de définir Valérie, mais c'est peut-être la femme la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Ça veut dire non, spéciale pour le positif. Elle est incroyable. Comme comédienne, comme réalisatrice, je pense que le film lui doit énormément. Quoi. En plus, je savais que. Ça veut dire. C'est un rôle qui est compliqué parce qu'elle doit à la fois être une écrivaine parisienne un peu établie, à la fois trop romantique, presque pathétique parfois, une sorte de fragilité. Et Valérie, elle a tout ça en elle. Je ne vois pas beaucoup de comédiennes qui pouvaient, je pense, faire cette rôle. Voilà. Non. Après, pendant le montage, on l'a détesté parfois.
Et on parle effectivement beaucoup de Valéria, mais ce qui est logique aussi, c'est qu'elle a une part importante dans le film. Et pour les autres comédiens, les autres comédiennes, comment le choix s'est fait? Comment le casting s'est réalisé?
Alors, d'abord, il y a Yona qui fait Ori, qu'on a cherché pendant longtemps parce qu'il fallait trouver. C'est pas évident de trouver un Israélien qui parle français, un acteur avec le bon âge, etc. Et j'ai vu son. Et ça, Yona aussi, il est un réalisateur, il a fait un très beau film qui s'appelle Havre de paix, qui était diffusé en France. Et dans ce film à lui, il joue avec ses frères. Et quand j'ai vu son film, je me suis dit tout de suite, c'est lui, je vais regarder un peu des interviews de lui aussi. Mais, parce qu'encore une fois, il devait être à la fois, comme vous dites, un homme de désert, et à la fois quelqu'un de très torturé, qui crie la nuit, etc. Et aussi, c'était très important pour moi de trouver quelqu'un avec une sorte de bonté dans les regards, dans les yeux, pour empêcher le kidnapping d'être trop violent, quoi. Ça veut dire, je pense, c'est à vous de dire, mais je pense qu'on n'a pas vraiment perdu lui et elle non plus. Parce qu'il dégage une sorte de... Peut-être je me trompe. Mais... Après, il y a Germaine, et voilà, que la mère que... Comment on a fait le casting? Voilà, on a regardé... Non, mais Germaine, elle a une histoire particulière parce qu'elle est née à Paris. Son père était déporté et elle a perdu sa mère à 12 ans. Ça veut dire, elle, pour elle, faire ces films, c'était un petit peu... Pas boucler les boucles, parce que c'est comme... La proportion sont différentes. Mais c'est la seule sur le tournage, vraiment, qui a vécu les choses, quoi.
Bonsoir. Je voulais dire merci pour l'abnégation qu'il faut pour attendre toutes ces années, enfin, travailler sur... faire produire un film, on a l'impression qu'à chaque fois que c'est passionnant, c'est en même temps une œuvre qui reste, mais c'est beaucoup, beaucoup de lutte pour les crédits, etc. Ma question, c'était comment s'est passé le montage, en fait? Est-ce que vous avez eu beaucoup de temps? Est-ce que vous aviez le budget qu'il fallait pour, est-ce que c'était douloureux ou est-ce que c'était... parfois, on a l'impression, on a des témoignages qui nous disent qu'on a l'impression de mourir, de renoncer à plein de choses, ou est-ce que vous êtes... aller dans la voie que vous aviez prévue, ou c'était plein de surprises dans les images que vous découvriez, en fait?
Je laisse Thomas répondre. Je vais juste vous dire que chaque matin, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, on monte.
Voilà. Est-ce que c'était joyeux? Est-ce que c'est joyeux ou douloureux, déjà? Aussi simple que ça,
entre
déjà.
Entre nous deux, c'était super. Voilà. Et on passe beaucoup de temps ensemble. En plus, vous travaillez. Après, il faut aller déjeuner ensemble, en plus.
Est-ce qu'on a eu le temps pour monter? Oui, ça, on a eu du temps. On n'a pas du tout été... Le montage, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc, un mois de montage pour une prod, c'est pas... Il gronde pas trop, normalement.
Non, mais il y avait un peu de stress, quand même, à la fin.
Mais il y avait un peu de stress. Oui, parce que les prods sont tout le temps stressés, par contre, quoi qu'il arrive. Et après, est-ce que t'as... On a dû... Bah, comme on dit, on a fait un petit parcours sur l'animation, je me souviens. Et il a fallu trouver le personnage de Ori aussi. Et bah, il y avait Valéria, qui était un... Voilà, plein de choses. Mais en fait, il y a tout. Enfin, je pense qu'elle est... c'est un feu follet, mais elle sait ce qu'elle fait. Je suis sûr. Et donc, il y avait tout, en fait. Après, c'était pas toujours dans l'ordre, mais il y avait tout. Et c'était... Finalement, elle était facile à trouver. Ori, c'était peut-être un peu plus dur à trouver. Le personnage, pas le jeu, mais il pouvait être trop faible, trop maladif, trop dur. Voilà. Donc ça, il y a eu tout un trajet à faire. Et puis, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est deux parties à relier, à équilibrer. Mais est-ce que c'était... On a renoncé à... T'as renoncé à rien? Si?
Non. Non, on a... C'est vrai qu'on a coupé des scènes, évidemment. Mais ça, c'est toujours comme ça. Et scènes qui sont moins bien ou qui... Et... Non, je pense que les parties difficiles... Les débuts, on a eu du mal à trouver l'ouverture, c'est-à-dire la première partie... Après, les séquences où il y a l'animation et la voix off, on a refait, on a beaucoup cherché. Et... Mais ça, c'est des choses normales. Oui, dis-moi.
Oui, oui, non, oui, c'était un montage normal. Mais par exemple, le procès, ça se monte pas du tout pareil, parce que ça, c'est un vrai truc de d'équilibrer, de faire que le cet avocat général, enfin, ou l'avocat plutôt de l'accusé, ne soit pas ni trop fort, qu'on voit la force qu'il faut à Germaine pour le contrer. Bah, tout ce trajet-là, ça, par exemple, ça, c'est, on savait que cette séquence-là, elle était au tiers du film et qu'elle était dans sa durée, qu'on n'allait pas faire des allers-retours et tout ça. Donc ça, il n'y a pas de question de structure, mais pour la trouver bien. Après, c'est aussi un acteur qui a une espèce de fantaisie, de folie, l'acteur qui joue l'avocat, qui part dans des trucs comme ça. Donc ça, c'est pareil, on avait des choix, plein de choix, pour que ça marche. Donc, voilà. Et par contre, les séquences avec Jackie Berroyer, c'est des séquences qui ont été tournées très vite, qui n'ont pas pris beaucoup de temps dans le plan de travail, je pense. Donc c'est des trucs qui se trouvent quand elle parle avec lui, je ne sais pas en combien de temps vous l'avez tourné, mais je pense en une heure, quand elle parle avec lui à l'hôtel, qu'elle lui dit pas beaucoup. Sauf que c'est des séquences qui sont hyper importantes dans le film, tous les Skype. Et donc ça, c'est vraiment des trucs où au tournage, ça ne représente pas grand-chose. Et nous, au montage, ben, on s'est retrouvés avec un truc qui a été tourné assez vite, mais qui va prendre une place importante. Donc, c'est un truc pareil qu'on a dû pas mal affiner, quoi. Voilà.
C'est une torture, le montage. Mais il y a beaucoup de moments, il y a les moments magnifiques où on trouve un truc, et ça... Non, je ne dis pas que c'est une torture, mais c'est tellement des petites décisions de réessayer, et d'essayer de garder la lucidité, parce qu'on regarde les films de, encore une fois, et ça, c'est difficile à garder le...
Est-ce que le monteur peut influencer le sens du film ou faire prendre une autre direction ou pas? Est-ce qu'il y a ce genre de choses qui peuvent arriver ou pas?
Oui, bien sûr. Après, chaque couple de réalisateurs, monteurs, j'imagine... C'est... Évidemment, disons... Le film n'est pas si différent du scénario, finalement. C'est d'ailleurs grâce au montage, parce que c'est étrange. On commence, on s'éloigne du scénario pour enfin revenir, pour retrouver l'esprit qu'il y avait avant. Et dans les relations, je pense que Thomas, il a beaucoup plus d'expérience que moi, il aurait peut-être ajouté, mais je pense que, en plus, pas pour donner trop de compliments, mais ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que il est là pour moi ou pour les films, mais parfois, je ne sais pas comment expliquer, mais en dehors des relations humaines, comment tu aurais expliqué? Non, mais vraiment, je ne trouve pas, mais les petits conflits ou je pense que pour le montrer, les bons balances entre indépendance et à la fois, et en même temps, chercher ce qu'on cherche ensemble, c'est ça le cœur du...
Bah oui, j'avais mon chef, enfin quand j'étais assistant, qui s'appelle Yann Dedé, il disait on ne peut pas monter à la place d'un autre. C'est-à-dire que quand on monte, on doit sentir la scène, faut qu'elle joue bien, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est les petits temps dont on parle, on rajoute 10 images, et puis... Bah, l'autre, il met trop de temps à répondre, ou on reste trop longtemps sur un regard, ou on fait détourner le regard. Ça change le truc, ça change l'énergie de la scène. Ça fait que tout à coup, les acteurs ne jouent plus ensemble. Ou voilà. Donc, il faut faire un peu sonner la scène. Ça, on ne peut le faire qu'en le sentant nous-mêmes. Donc, on ne peut pas monter à la place de quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est ça où on est indépendant. Mais après, on monte avec quelqu'un d'autre pour quelqu'un d'autre. Donc, on comprend ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Faut essayer de comprendre. Donc c'est une espèce d'aller-retour entre le faire pour que ça. Enfin, moi, il me plaisent toujours les films que je monte parce que il me plaisent toujours les films que je monte parce que j'ai. Mais je pense qu'ils plaisent à leur réalisateur. Enfin, en tout cas, qu'ils ressemblent à ce que leur réalisateur a voulu. Voilà, c'est une espèce d'aller-retour comme ça.
Et est-ce que des fois, on se dit à un moment, il faut s'arrêter, ou est-ce qu'on pourrait continuer? Enfin, à quel moment vous dites, là, au-delà du fait qu'il y a la production et qu'on se dit maintenant il faut arrêter, etc., financièrement ou autre, où on n'a plus le studio de montage, est-ce qu'il y a un moment où on se dit là, c'est bon, j'ai ma bonne version, est-ce que des fois on se dit on s'arrête, mais on aurait bien aimé continuer, on n'est pas sûr d'être arrivé à ce qu'on voulait ou...
Je pense qu'il y a un moment, là par exemple, où on s'est dit c'est beau, là on amène les distributeurs. S'ils sont constants, on dit c'est beau. Et après, il y a encore de plein de petits trucs, ouais, quand même. Ça veut dire on peut continuer des petites nuances pendant longtemps, j'imagine. Par exemple, mais si je regarde les films là, j'ai pas l'impression, j'ai pas envie de changer de choses. Sauf peut-être, mais je veux pas dire ça parce que peut-être. Une petite scène que peut-être j'aurais fait un peu autrement, mais il y a ce moment où les choses, voilà, oui. Après, on dépend, je pense qu'on dépend quand même, au moins moi, quand on avance beaucoup avec le montage, on est quand même dépendant des regards des autres et des projections, et ça c'est une chose assez incroyable, que si on regarde tous les deux le film, je les vois. Mais si on amène 2-3 personnes dans une projection, même pendant la projection, soudain, je sens le film, je sens le rythme, parce que quelque chose est... C'est comme je regarde le film différemment. C'est pour ça qu'on fait pas mal de projections avec des invités, même pas forcément pour leur critique, mais aussi pour sentir, pour être dans cette expérience.
Dans la position du spectateur aussi, et avec d'autres. Pour
oui, c'est comme la présence des autres te rend plus lucide comme spectateur.
Il y a d'autres questions. Parce que moi, j'avais une question aussi sur le cadrage. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des très beaux cadrages dans le désert, effectivement. Alors là, on peut avoir envie d'en rajouter, peut-être, parce que c'est très beau, justement, au montage. Comment la collaboration s'est faite avec Damien Dufresne, le chef opérateur, enfin, le directeur photo ?
C'était super. Surtout, en plus, il est très impliqué. Il a travaillé dans des conditions qui n'étaient pas faciles pour lui, parce qu'il n'avait pas de l'argent pour des matériaux, pour beaucoup de gens d'équipe. Et on devait être très, très efficace. Parce qu'on a tourné le film en 24 jours, que pour un film français, c'est très rapide. En Israël, c'est pas si rapide. Alors, on a travaillé beaucoup à l'épaule. On a fait beaucoup de préparation ensemble. On n'a pas trop parlé pendant le tournage, lui et moi. Mais il était, encore une fois, pas forcément pour lui donner des compliments, mais ce qu'il mérite, mais c'est... Aussi, un chef-op, je pense qu'un bon chef-op, il trouve les balances entre l'équilibre entre son travail à lui et laisser le temps pour les acteurs, pour les réalisateurs. C'est mon premier film. Par exemple, on a beaucoup travaillé de la lumière. Et parfois, c'était un peu... On a raté des choses parce qu'il fallait que ça soit parfait. En plus, sa femme est israélienne, alors il était vraiment... Non, ça veut dire qu'il était sur place, alors c'était facile.
Et peut-être qu'il connaissait aussi les paysages, où il savait aussi... Oui. Parce que le repérage des lieux, ça a été fait avec lui
ou... Non, les repérages, j'ai fait plutôt avec mon frère. Et tous les deux, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup cherché, parce que... Il faut comprendre que le désert en Israël, 97% du désert israélien, il appartient à l'armée. Ça veut dire qu'on peut y aller juste les week-ends. Et les week-ends, on ne peut pas filmer parce que c'est très cher, tourner. Alors il fallait trouver entre les limites de parcs nationaux, l'armée, que ce ne soit pas trop loin de la route parce que c'est très difficile pour la production, on perd beaucoup de temps de voyage. Et en même temps, ne pas renoncer parce que... Disons, étant donné que chez moi, j'ai fait beaucoup de randonnées, les beaux endroits, ils sont loin. Et ça, c'est toujours frustrant. Ça veut dire que c'était toujours un peu frustrant. Mais quand même, je pense qu'on a arrivé à trouver des beaux endroits. Damien, par exemple, il a beaucoup insisté où il passe la fin, où il y a de l'eau. C'est 1h15 avec une rue de terre, quoi. Ça veut dire que Valéria, elle devait se réveiller à 3h50 du matin pour arriver.
Parce qu'en plus, j'imagine qu'il fallait gérer aussi coucher ou lever du soleil pour.
Oui, même si ça, on a compris assez vite qu'on ne pourra pas trop contrôler la. On a rêvé, mais voilà, on a eu 8 jours dans le désert.
Est-ce qu'il y a des questions? La dernière question, peut-être. C'est maintenant. Après, ils s'en vont. Non. Parce que moi, j'ai peut-être une question pour terminer. Parce que donc, est-ce qu'on attend 2034 pour le prochain
non,
film?
Non, non, non. J'espère que non. Okay. Non, je suis en train d'écrire un scénario. Okay. Après, s'il est bien, je ne sais pas encore. C'est la deuxième version. Mais j'espère que non.
Tu fais combien de versions sur la dune et ce film-là?
La dune, j'ai écrit assez vite. Il y avait, c'est difficile à compter les versions, mais dans quelques mois, il y avait le film. Et là, on a beaucoup, beaucoup changé, j'ai retravaillé pendant des années. En plus, tu as le temps, tu retravailles. Voilà.
Okay. Ben, merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup. Merci, Thomas.